on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré à Chasse gardée 2. Et oui, Simon et Adé sont de retour pour de nouvelles aventures avec de nouveaux voisins, de nouvelles emmerdes évidemment. Je crois qu'on peut se le dire comme ça. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir les deux réalisateurs avec nous. Antonin Fourlon, bonjour Antonin.
Bonjour, on est ravis d'être là.
Merci d'être là. Et Frédéric Forestier, qu'on a grand plaisir à recevoir également. On a quasiment promotionné tous ces films des Baudins, ce que vous avez tous adoré. Et on adore justement ce punch et cette dynamique qu'il y a dans ces montages. En tout cas, merci Frédéric d'être là.
Merci de nous inviter.
Alors, tous les deux, évidemment, on va parler de Chasse gardée. Ça, c'est vraiment le film qui sort mercredi. Ça a été le carton sur le 1. C'était presque un carton inattendu à ce moment-là, j'ai l'impression, tous les deux.
Oui, c'est vrai que moi, je rêvais d'un million. Je trouvais ça fantastique. Et oui, le deuxième million, ça a été une excellente surprise. Et puis, très en profondeur dans les territoires. Donc, voilà, ça, c'est un film qui a marché à la campagne. Et c'est génial.
Oui, moi, j'étais un tout petit peu moins surpris parce que je trouvais le film formidable. Non, mais en fait, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte quand même que quand on parle d'un sujet qui est pas forcément un sujet qui est abordé souvent au cinéma, et que on le fait avec humour et que on parle aussi d'une façon bienveillante de tous les territoires, parce que Saint-Hubert c'est un peu un village qui est un peu partout en France, ça pourrait être n'importe où. Bah oui, ça fait mouche quoi.
Frédéric, il fait pas un film en dessous d'un million, de toute façon, faut se le dire quand même, hein, presque. Antonin, l'idée, alors j'ai pu assister à des avant-premières, et effectivement, Antonin, tu as dit que c'était un peu pendant le confinement que tout ça a été né.
Oui, tout à fait, moi j'étais coincé avec mes enfants à Paris, et c'est pour ça que j'imaginais cette famille qui avait besoin d'espace et d'air, et qui voulait un jardin.
C'était un peu l'exode en plus, hein, dans les années qu'on subit le confinement.
Et voilà, et moi je rigolais parce que je connaissais des gens qui quittaient Paris et qui ne connaissaient pas la campagne et qui ne connaissaient pas non plus ce loisir, cette pratique traditionnelle qu'est la chasse. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille de chasseurs, je suis allé beaucoup à la chasse et du coup je me suis dit que c'était le moment d'en parler puisque ça existe et c'était un moment particulier de l'histoire. Et dans le 2, ils sont restés à la campagne et maintenant ils souffrent un petit peu d'un isolement un peu social et quand il y a un nouveau couple qui arrive, ils sont ravis d'avoir des nouveaux amis. Mais
tout va pas se passer comme prévu. C'est vrai qu'on sent Simon et Adé qui commencent à s'ennuyer un peu dans leur couple, dans leur vie. Ça ronronne totalement dans ce deux. Et là, ils se disent, mais oh, ça y est, il y a des nouveaux voisins qui arrivent. C'est absolument génial. Adé est à fond pour essayer, alors que Simon est un peu plus, vous allez voir, sur la retenue. Et puis, c'est là que les emmerdes commencent, Frédéric.
C'est là que les emmerdes commencent, effectivement. Parce qu'en fait, autant dans le premier film, il y avait une opposition parisien et provinciaux. Là, c'est deux chasses, en fait, qui cohabitent sur le territoire français. Puisque là, du coup, les Parisiens qui comptent les points entre les, l'antagonisme entre deux chasses, bon, ils participent aussi, bien sûr, mais c'est vrai que il faut faire cohabiter tous les types de chasses en France, c'est pas forcément évident.
Et là, ça va être la chasse à cour.
Tout à fait. Voilà. Alors, eux, ils connaissaient pas la chasse à tir. Maintenant, ils connaissent pas la chasse à cour non plus. Du coup, ils sont encore plus paumés. On voulait un peu monter les enjeux puisque, voilà, c'est une chasse où il n'y a pas de fusil. Donc, au début, ils sont rassurés. Mais très rapidement, ils voient qu'il peut y avoir d'autres problèmes. Surtout que pendant 2 ans, personne n'a régulé dans le bois de Saint-Hubert. Donc, du coup, il y a beaucoup d'animaux. Et ils vont être, évidemment, un peu poussés hors du bois par la chasse à cour.
Il y a des effets spéciaux qui sont absolument magnifiques avec les animaux, mais surtout aussi c'est qu'il y a quand même deux nouveaux personnages haut en couleur avec ceux de Maxime Gasteuil et Eden Ducourant qui est extraordinaire aussi.
Oui, on a fabriqué ce couple et en fait on voulait surtout que Maxime soit crédible en fils de Bernard, de Didier Bourdon, et Eden qui est son épouse, qui est plus aristocratique, qui vient d'une famille plus aisée, on va dire. Donc c'est elle qui pratique la chasse à cour et qui a converti le fils unique de Bernard au grandin de ce fameux Bernard d'ailleurs. Mais non, il y a aussi une nouvelle recrue dans ce 2 qui est
Sixtine.
Sixtine. Ah, bah oui. On va pas dire avec qui elle va avoir des incontances dans ce film. En tout cas, c'est aussi un personnage important parce que c'est la petite sœur de la femme de Maxime Gasteuil dans le film, qui joue un personnage particulier. Et Diane Segar a été vraiment nous a beaucoup étonné lors des essais filmés.
Ah, moi j'ai découvert, elle est extraordinaire.
Extraordinaire. Ouais. C'est son premier film, on tient à souligner qu'en fait elle nous a vraiment bluffé.
Alors c'est vrai que Bernard is back, hein, André, on va retrouver Benjamin, évidemment, encore j'ai l'impression plus fou que dans le 1.
Oui, c'est un personnage qui était un peu qui avait beaucoup plu dans le 1, du coup moi j'avais à cœur de le développer dans le 2, de peut-être lui faire rencontrer l'amour à travers une piqueuse qui est un rôle particulier dans la chasse à cour aussi, et oui, il y a toute l'équipe de chasseurs qui revient, qui fait front. qui vient avant tout pour rigoler de la chasse à course, que bon, moi dans ma famille les chasseurs à tir rigolaient un petit peu parce que voilà, il y avait très peu d'animaux qui étaient pris en chasse à course, du coup ils disaient toujours qu'on allait rien bouffer. Et puis aussi c'était l'occasion d'explorer d'autres chasses, on n'a pas fait que la chasse à course. Les gens nous avaient demandé pourquoi il y avait pas de palombière dans Chasse gardée 1, et voilà, là on a travaillé la palombière.
On écoute la bande annonce Chasse gardée 2, c'est mercredi au cinéma, on revient juste après, à tout de suite.
On va avoir des nouveaux voisins.
Détends-toi, on temporise. On leur montre pas qu'on en manque de potes.
Je présente notre fils unique, Stanislas.
Adé, Simon, les Parisiens.
Enchanté.
Ça vous dirait de venir boire l'apéritif à la maison ce soir?
Non.
Avec plaisir.
Attendez, vous êtes sûr?
Ça va être génial.
Calme-toi.
Aux nouvelles rencontres.
On va avoir des amis.
Tu sens pas qu'ils ont comme un petit secret qu'ils veulent pas trop nous dire?
Qu'est-ce qui se passe?
Oh non! Oh non!
Vous chassez?
Oui, c'est de la chasse à courre.
Voilà, Chasse gardée 2, c'est évidemment le film à ne pas rater. Vous l'attendez évidemment tous. Ça a été un des gros gros cartons. Il y a quelques années, on a déjà donc cette suite qui arrive. On va évidemment y venir à la fin de notre rencontre, savoir si un 3 est déjà en préparation. Mais en tout cas, Frédéric, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a beaucoup de scènes, j'imagine, hyper compliquées. Je pense aux scènes de palombière. Je pense, voilà, il y a plein de scènes différentes, mais qui ont pu être vraiment, je pense, un casse-tête à filmer.
Bah oui, d'abord c'est un casse-tête technique parce qu'il faut savoir comment est-ce qu'on construit la palombière, ce qu'on a construit réellement à 18 mètres de haut. Bon, la question a été rapidement répondue. C'était un non. non, mais pour des questions techniques et puis aussi pour des questions pratiques, en fait, voilà, il y a des choses qui sont décidées en studio, d'autres qui vont être fabriquées réellement, d'autres qui vont être faites en numérique. Donc on fait assez rapidement le premier tri et puis ensuite on met les choses en œuvre, y compris après quand on a des scènes avec des cascades, avec des animaux qui ont des conséquences directes. Il y a un animal numérique qui rentre en interaction avec un décor réel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à penser en amont pour que tout ça ait l'air tout à fait naturel dans le film.
Alors là, évidemment, vous avez beaucoup rire, c'est que Camille Hilou lance un pari à un moment donné dans le film. On dira pas comment, mais c'est sûr que c'est une scène où elle va donner beaucoup d'elle-même, ou pas. Mais en tout cas, vous allez le découvrir, mais il y a une scène de tyrolienne à mourir de rire.
Je n'ai qu'une seule chose à dire. Dans le premier film, elle avait retiré le haut.
Ça suffit, je valide pas du tout.
Bon, en tout cas, il y en a un qui a retiré le bail, qui donne de son corps aussi, Julien Pestel, franchement. Chapeau, parce que lui, franchement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui l'arrête, Julien.
Non, il est fantastique, il a amené le personnage de Benjamin encore plus loin que ce qui avait été écrit sur la page. Non, c'est un plaisir de développer son personnage. Voilà, là, on a la chance d'avoir pu faire les films très proches, du coup, on peut tout de suite enchaîner. Il s'est passé que 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup de régulation, et donc on les retrouve là, on les a laissés, et c'est un peu une comédie de personnages. On peut découvrir un peu la jeunesse d'André, le futur de Benjamin, avec tous les nouveaux qui sont venus compléter le casting.
Alors, il est vrai que vous êtes lancé un pari un peu fou quand même tous les deux. En un an, le film a été écrit, repéré, tourné, monté, et il sort maintenant au cinéma. Comment on ressort d'une année pareille?
Épuisé.
sur les genoux.
Ah oui, en fait, oui, ça a été la surprise quand on a lancé la production du film, c'est de voir que UGC avait officialisé la date de sortie. Et on s'est regardé en se disant, mais ce n'est pas raisonnable. Et après, on nous a dit, oh, si, faut vraiment, les gars, faut vous teniez les délais. Après, on travaille pas de la même façon quand on est dans l'urgence. Disons qu'on est poussé à prendre des décisions plus rapidement. Donc, on agit plus par instinct, et souvent par instinct, on va dans la bonne direction, en fait. Donc, je dis pas qu'il faut absolument qu'on travaille dans l'urgence tout le temps. Mais, en tout cas, voilà, nous, ça nous a forcé à aller tout de suite droit au but sur les décisions qu'il y avait à prendre artistiquement, techniquement, voilà.
Comment on se répartit les tâches quand on est deux?
On se répartit pas, faut tout faire ensemble parce que sinon on perd un petit peu le fil. Donc c'est beaucoup de préparation parce que une fois que la journée de tournage a commencé, c'est trop tard. Et c'est aussi super d'être deux parce que ça va un peu moins vite au début, mais après on va beaucoup plus loin et on est aussi plus fort pour assumer certains choix. Expliquer à Didier qu'il va tomber dans l'eau par exemple ou qu'il va sauter sur un matelas. Voilà, expliquer que le décor va vraiment bouger à tout le monde. Expliquer à Julien qu'il va courir avec une meute de chiens avec des saucisses sur lui. Voilà, c'est moment là où peut-être que seul on pourrait se dégonfler en disant non, bon, tant pis, on va se débrouiller. Là, on peut pas lâcher l'autre, du coup, on ne bouge sur rien et ils se prennent tout.
Quand vous avez une bande de comédiens qui sont tous aussi incroyables les uns que les autres, on se dit quoi, c'est des Rolls Royce que vous avez là à conduire là pour le coup.
Exactement, et puis voilà, ce qui était génial, c'est qu'il y avait une petite troupe qui s'était formée sur le 1, qui a tout de suite reconnecté, et ils ont vraiment accueilli les nouveaux et ils les ont torturés. pendant les prises et ils les ont poussés et c'était tout de suite, tout le monde était au même niveau tout de suite, ça c'était vraiment génial.
Oui, les nouveaux ont été bizutés, ce qui est normal, hein, forcément, il y a une espèce de famille, on dit, qui se crée, mais donc c'est bien qu'on soit deux, nous, pour tenir aux choses, et voilà, on est plus fort à deux, quand on dit, on parle d'une même voix, on est comédien, bon, ben, du coup, ils ont tendance à suivre, à être plus disciplinés.
Ouais. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de scènes en plus que vous avez pu devoir faire qu'une fois, voire deux, max. Donc c'est vrai que là, faut être dans une espèce d'efficacité assez dingue. Mais voilà, vous verrez, en tout cas, vous comprendrez quand vous allez voir le film. Je suis sûr que vous êtes nombreux, en tout cas mercredi, au cinéma, à aller voir Chasse Gardée 2. C'est le film de ces fêtes de fin d'année à ne pas rater, évidemment. Et vous allez pouvoir profiter des vacances de Noël, évidemment, aussi, dans les cinémas pour aller voir. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a un 3 déjà en préparation ou pas? Est-ce qu'il y a des idées qui traînent?
Alors si le 2 s'avère être un succès, évidemment qu'il y a encore beaucoup de conneries à raconter, beaucoup de chasses à explorer, beaucoup de personnages à développer, ce serait avec grande joie si, voilà, si le public en a envie et nous suit, ce serait génial.
Ouais, c'est le public qui décide, hein. Si le public le permet, il y aura effectivement d'autres horizons à explorer. Et peut-être d'autres personnages, ou en tout cas aller plus loin et en apprendre encore sur le passé d'André et sur les relations des uns et des autres qui peuvent aussi évoluer.
Et la suite de Michel aussi, hein, on a hâte de voir comment va tourner effectivement ce qui se passe pour Michel dans le film. Bon, en tout cas, si vous avez envie de voir des sangliers domestiqués, si vous avez envie de voir des cerfs qui mangent des tartines, des biscottes par la fenêtre, si vous avez envie de voir des hélicos en pleine forêt, c'est de la folie en tout cas pendant une heure et demie, allez voir Chasse Gardée 2, c'est mercredi, dans les salles en tout cas, voilà, on vous souhaite tout plein de bonnes choses les garçons, merci beaucoup d'avoir été avec nous, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, mais je suis sûr qu'elles vont être belles, merci.
Merci beaucoup,
merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On fêtera les 20 ans de la France, un incroyable talent avec une des jurées emblématiques de l'émission, Sophie Eldestein, et le Platinum Buzzer de cette année, Timeo Sparking. On parlera également de la sortie du film Louise et plein d'autres surprises.